Voici le journal de Kathleen Comte. Bonjour Kathleen.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec dans l'actualité ce matin des nouveaux cas de thrombose qui inquiètent.
Oui, parce que cela ne touche pas forcément les moins de 55 ans. Pourtant, la vaccination avec AstraZeneca est réservée aux plus âgés. Ces nouvelles questions n'arrangent donc pas la réputation du vaccin mal aimé par les Français. Avec ou sans l'AstraZeneca, en tout cas les chiffres du Covid en France semblent enfin se stabiliser. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite, on est encore bel et bien dans la troisième vague. Elle a beaucoup fait parler d'elle. La loi climat était scrutée par les députés pendant 3 semaines. Finalement, qu'est-ce qui a été voté? On y revient dans quelques instants. Et puis la gauche tente d'enterrer la hache de guerre après des semaines de polémiques. Les leaders se réunissent ce matin pour tenter de renouer le dialogue. Plusieurs figures seront présentes, dont votre invité, Éric Delvaux.
Oui, Benoît Hamon, invité à 8h20. Il est le fondateur du mouvement Génération.S. Il est donc favorable à l'union des gauches. Il est d'ailleurs, lui, Benoît Hamon, candidat au régional en Ile-de-France sur la liste de l'écologiste Julien Bayou.
France Inter.
Avec donc ces nouveaux cas de thrombose détectés et le profil cette fois semble un peu différent.
Jusqu'à présent, les cas signalés concernaient principalement des Français de moins de 55 ans. Le vaccin AstraZeneca était donc réservé aux personnes plus âgées. Problème, l'agence de sécurité du médicament a relevé ces derniers jours des nouveaux cas graves de thrombose. Solène Lehen, les patients avaient cette fois plus de 55 ans.
L'agence de sécurité du médicament a recensé en France 9 nouveaux cas de thrombose atypique et 2 cas de coagulation intravasculaire disséminée, 2 maladies qui concernent la formation de caillots dans le sang. Tous ces patients ont été vaccinés récemment avec le vaccin contre le Covid d'AstraZeneca. En tout, depuis le début de la campagne de vaccination en France, 23 personnes ont été victimes de problèmes similaires liés à ce vaccin, 8 en sont mortes. Ce qui inquiète, c'est le profil des nouveaux patients. Ils s'éloignent de ce qu'avaient d'abord observé les médecins ces dernières semaines. La Haute Autorité de Santé estimait que les thromboses potentiellement liées au vaccin AstraZeneca touchaient plutôt des femmes de moins de 55 ans. L'agence scientifique indépendante avait donc réservé ce vaccin aux plus de 55 ans. Or, parmi tous ces nouveaux cas recensés en une semaine, 4 sont des femmes et 5 sont des hommes. Et ces malades sont plus âgés. Ils ont entre 54 et 74 ans. L'Agence française du médicament a décidé de remonter ces cas au niveau supérieur, c'est-à-dire à l'Agence européenne du médicament.
Tandis que la méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca grandit en France, le Johnson & Johnson tarde à venir. Pour le moment, l'utilisation de ce vaccin est suspendue aux États-Unis et en Europe en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. L'EMA, l'Agence européenne du médicament, donnera son avis mardi. En attendant, la campagne vaccinale se poursuit en France. On dépasse désormais les 400 000 injections quotidiennes. Un peu plus de 12 millions de Français ont reçu au moins une première dose. Le gouvernement joue contre la montre et espère voir très bientôt une baisse des contaminations pour déconfiner. Encore 36 000 nouveaux cas hier. Le plateau reste donc encore très haut. Pourtant, la situation semble se stabiliser. Comme le constate François-René Pruvot à la tête de la conférence des présidents de commission médicale des CHU.
Le taux d'incidence par 100 000 habitants est en train de chuter à peu près partout. Peut-être un peu moins en Île-de-France et peut-être en Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans la plupart des régions, ce taux chute. Le nombre d'entrées et de sorties de patients, le flux de patients diminue également. Simplement, comme on a énormément augmenté le capacitaire, le peu de malades qui rentrent et qui sortent crée cet état de tension. On en est à 2 ou 3 malades près que l'on place en bougeant les murs, en faisant sortir des patients alors qu'on pensait pas pouvoir les faire sortir 3 heures avant. Donc c'est un ajustement permanent qui crée cet état de tension, mais quand même, il y a une sorte de souffle, je dirais, pas de bonheur encore, mais de bien-être à la vision de cette stabilisation qui arrive.
Jean Castex aux côtés des agriculteurs aujourd'hui. Après l'Ardèche la semaine dernière, le Premier ministre se rend dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le gouvernement a promis des enveloppes d'indemnisation exceptionnelles après les fortes gelées matinales de la semaine dernière.
Et une question ce matin, après plusieurs semaines d'examen, que reste-t-il de la loi climat?
Cela fait 3 semaines que les députés planchent dessus. Habitat, transport, repas végétariens, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été passées au crible. Et voilà, entre autres, ce qu'il en ressort, l'interdiction de louer des logements mal isolés à partir de 2025 ou encore la fin de certaines lignes aériennes. Mais pas de révolution pour certains députés très déçus. Le mathématicien Cédric Villani, député ex-LREM, aujourd'hui non inscrit, est très engagé sur le texte. Célia Kiré, il aurait voulu que le gouvernement aille beaucoup plus vite.
partout où il y avait de l'ambition, des dates clairement affichées, des objectifs de réduction fortes mis en œuvre par la Convention citoyenne pour le climat, on voit ce qu'il en est sorti. Des objectifs rabotés, un manque d'ambition, des déclarations de principe, tout ce qui aurait pu nous mettre en situation de relever ces défis extraordinaires de lutte contre le changement climatique, il n'a pas été relevé. C'est bien pour ça que cette loi, qui aurait pu être une grande loi, cela restera une petite loi.
Le gouvernement et certains députés de la majorité ne sont pas de cet avis. Selon eux, ce texte est un tournant majeur. Pour le député MODEM du Finistère, Erwan Balanan, il ne faut pas minorer la portée de cette loi climat.
Progressivement, certes, mais quand même, on avance. Et moi, je pense que la meilleure des solutions sur, par exemple, l'automobile, c'est de pouvoir avoir la capacité d'accompagner les citoyens dans le changement de leur véhicule pour des véhicules plus propres. Et ça, c'est aussi acté dans la partie se déplacer. Il y a eu des belles avancées sur ce sujet pour que chaque citoyen, quand il a envie de changer de voiture, il puisse être accompagné pour une voiture plus vertueuse. Il ne faut pas continuer à se dire qu'il faut aller encore plus loin. Et c'est moi la détermination que j'ai sur ce texte.
En Méditerranée, les corps de 41 migrants, dont au moins un enfant, ont été repêchés après le naufrage de leur embarcation de fortune. Ils tentaient de rejoindre l'Europe depuis les côtes tunisiennes. Seules 3 personnes ont pu être secourues. Emmanuel Macron et Angela Merkel apportent leur soutien à l'Ukraine et appellent la Russie à retirer ses troupes. Elles sont de plus en plus nombreuses à la frontière avec l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines, les affrontements se multiplient entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'est du pays. Des dizaines de milliers de soldats russes sont déployés et laisse craindre une opération militaire d'ampleur.
Les leaders de la gauche jouent gros ce matin.
Anne Hidalgo, Olivier Faure ou encore Julien Bayou, ils seront tous présents ce matin dans le 19e arrondissement de Paris pour une réunion importante. Le but, tenter de renouer le dialogue entre eux après les polémiques du mois de mars et surtout essayer de faire front commun avant la présidentielle de 2022. Tout ne sera pas réglé en une matinée, certes, mais pour le politologue spécialiste de la gauche Rémi Lefebvre, cette réunion n'est pas inutile.
Une des vertus de ce rendez-vous, ça pourrait être déjà, à mon avis, de clarifier la question des différents idéologiques, des divergences idéologiques. L'autre chose qui me paraît assez évidente, c'est que toutes les forces politiques là jouent un peu la comédie du rassemblement, puisqu'il est quasiment impossible de ne pas participer à cette réunion, de ne pas être favorable au rassemblement. On peut douter de la sincérité, c'est-à-dire globalement tout le monde est d'accord pour le rassemblement, mais autour de soi, de ce point de vue-là, cette réunion ne sera sans doute qu'un rituel de communication, mais au moins elle aura l'avantage peut-être d'engager un débat et de voir un peu sur quel point les divergences de la gauche achoppent.
Coronavirus oblige, les obsèques du prince Philippe se feront en petit comité au château de Windsor. Seules 30 personnes peuvent y participer selon les règles sanitaires en vigueur en Angleterre et aucun rassemblement public n'est prévu. Les Britanniques sont donc encouragés à rester chez eux, mais ça ne les empêche pas de saluer la mémoire du duc d'Édimbourg.
Alors que la reine Elisabeth enterre aujourd'hui son époux dans l'intimité du château de Windsor, certains Britanniques regrettent que les restrictions sanitaires les tiennent à l'écart des funérailles.
À cause de cette pandémie, on ne peut pas lui rendre hommage comme on le voudrait. Et ça, c'est vraiment triste.
Mais même à distance, tous pourront suivre la cérémonie à la télévision.
Tous les regards seront sur la reine pour voir comment elle s'en sort et si elle reste forte. C'est un moment vraiment difficile pour sa famille. J'espère qu'ils tiennent tous le coup.
Certains se demandent d'ailleurs si ces obsèques seront l'occasion de réconciliation.
Moi, je suis ravie qu'Harry ait fait le déplacement. À mon avis, Meghan aurait dû être là aussi pour le soutenir. Je comprends sa décision, mais je pense que c'est une erreur. Ça devrait être un moment d'unité.
Pour d'autres, cette journée reste avant tout l'occasion de commémorer la vie du prince Philippe.
Il avait 99 ans, il a eu une très belle vie, il a fait de grandes choses. Il avait parfois des opinions curieuses, mais je pense qu'il va manquer à énormément de gens.
J'ai adoré le découvrir dans la série The Crown. C'était un trésor national.
La reine Elisabeth observera une période de deuil jusqu'à jeudi prochain, le lendemain de son 95e anniversaire. Londres, Maxence Payet.
Bonne nouvelle pour SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk enregistre une nouvelle victoire. La NASA vient de lui confier la responsabilité d'envoyer dans 3 ans les prochains astronautes américains sur la Lune. Avant cela, c'est l'astronaute français Thomas Pesquet qui décollera de Cap Canaveral en Floride pour la station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX.
Les Rolling Stones seront à Marseille à partir de juin prochain.
Bon, il ne s'agit pas des vrais Rolling Stones, hein, mais de la grande exposition créée en 2013 à Londres par eux. Elle fera escale mondial au Vélodrome du 10 juin au 5 septembre. C'est Mick Jagger lui-même, le leader du groupe, qui l'a annoncé jeudi en personne et en français. Le groupe qui célébrera l'an prochain son 60e anniversaire y présentera plus de 400 objets sur 2000 mètres carrés. Louise Adélaïde Bonnard, les organisateurs attendent pas moins de 200 000 visiteurs sur 90 jours.
Les Rolling Stones, évidemment, c'est ça ou ça. C'est des concerts avec une scénographie ahurissante, un logo et des enregistrements à foison. Pendant près d'une heure et demie, l'exposition Unzipped propose de plonger dans ce qui a fait le quotidien et la légende du groupe. Philippe Manœuvre, le parrain de l'exposition.
Il y a les costumes de scène, il y a les pochettes de disques, il y a les affiches de concerts, et puis il y a tous les instruments de musique. Et à la fin de l'exposition, on entre dans une espèce de boîte à chaussures vidéo et on se retrouve sur scène avec les Rolling Stones à Cuba. Et on est là pendant 10 minutes, on est avec eux.
Unzipped a été repensé spécialement pour Marseille avec des nouveautés qui restent secrètes à ce jour. Un relooking qui plaît bien à Mick Jagger, qui a d'ailleurs un petit mot pour les futurs spectateurs.
Salut mes amis, je vous donne rendez-vous à Marseille le 10 juin pour notre exposition The Rolling Stones Unzipped. Vous allez adorer.
On ne sait pas encore si la star viendra à l'inauguration, mais les organisateurs le disent, on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Les Rolling Stones à Marseille, 8h11, c'est l'heure des sports.
Avec du tennis d'abord et cette surprise, Nadal a été éliminé hier en quart de finale du Masters 1, du Masters 1000 de Monte Carlo, 6-2, 4-6, 6-2. L'Espagnol, troisième mondial, a été battu par Andrei Rublev, huitième. Rafael Nadal n'était pas au meilleur de sa forme et a commis de nombreuses fautes. En football, le leader de Ligue 1, Lille, a fait match nul hier soir contre Montpellier, un partout. Le LOSC est toujours premier avec 70 points, mais perd son avance sur le PSG, deuxième du classement, avec 66 points. Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, y croit encore.
Est-ce qu'on a laissé filer des points? Est-ce qu'on en a gagné un? À vous de juger. Mais nos concurrents devront faire le parcours parfait pour nous passer devant. Nous, il nous reste 5 matchs maintenant. On a pris un point sur tout le monde. On verra bien dimanche soir à 22h55 avec tous les arrêts de jeu. On fera le bilan de la journée. Et on repartira dans une semaine où on va se préparer pour une grande confrontation dimanche prochain à Lyon.
Christophe Galtier au micro de François Launay. En judo, les championnats d'Europe se poursuivent jusqu'à demain. L'événement de ce samedi, c'est la confrontation chez les femmes en moins de 70 kilos. À la clé, une place pour les JO de Tokyo, le seul ticket qui n'est pas encore attribué dans la sélection féminine. La saison de Formule 1 vient à peine de commencer et déjà un pilote se fait un nom bien malgré lui. Le russe Nikita Mazepin, nouveau arrivé en F1 avec l'écurie Haas, est apparemment incapable de boucler un circuit sans partir au moins une fois dans le décor. Camille Hupnoir, bonjour.
Bonjour Catherine.
Ces petits soucis de conduite n'arrangent pas du tout sa réputation sulfureuse sur le circuit et en dehors.
Dès sa première course en F1 au Grand Prix de Bahreïn fin mars, Nikita Mazepin donne le ton. Il termine dans les barrières de sécurité avant même de boucler son premier tour, sans oublier un tête-à-queue lors des qualifications qui a gêné d'autres pilotes. Il disait avoir tourné la page après cette entrée désastreuse dans la F1, mais hier, aux essais du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le voilà à nouveau dans les graviers, non pas une fois, mais deux fois, de quoi arracher un rire un peu nerveux aux commentateurs de Canal+.
Et c'était, dans le... Excusez-moi, dernier virage avant le drapeau d'Abbé.
Ah oui, il ne passera pas la ligne, et l'entrée en marche arrière, drapeau rouge, donc ça va priver les équipes de pouvoir faire un test de départ.
Merci, monsieur Mazepin.
La conduite de Mazepin n'est pas vraiment une surprise. Avant d'arriver en F1, il a fait ses gammes en F2 et en F3, où les rapports d'incidents le concernant se sont accumulés depuis 2016. Tête à queue qui force d'autres pilotes à quitter la piste, sortie de route incontrôlée. Certains témoins assurent même qu'il a agressé, il y a 5 ans à coups de poing, un pilote qui l'aurait empêché de faire un tour rapide.
Et force est de constater que sa réputation l'a précédé, le monde de la F1 n'a pas beaucoup de sympathie pour lui.
Sa conduite parfois dangereuse ne joue évidemment pas en sa faveur. Il a aussi cette image de fils à papa. Son père est milliardaire et il est le nouveau principal sponsor de l'écurie Haas dans laquelle court son propre fils. De quoi soulever chez certains des interrogations sur la légitimité au volant de Nikita Mazepin, qui a terminé cinquième de la dernière saison de F2. Mais le jeune pilote de 22 ans nuit aussi à sa propre réputation avec son attitude en dehors des circuits. En décembre dernier, il a publié une vidéo sur son compte Instagram où on le voit toucher la poitrine d'une jeune femme qui se trouve dans une voiture avec lui. L'écurie AS a sorti un communiqué, le pilote a dû s'excuser, alors qu'une pétition signée par plus de 50 000 personnes demandait son retrait pur et simple du circuit F1. Ses déboires sur la piste et son attitude antipathique lui valent déjà des surnoms peu flatteurs, Mazepip notamment. Et pour les Britanniques, ce n'est plus Mazepin, mais Mazespin, spin signifiant tête à queue.
Eh ben merci beaucoup Camille Pnor pour toutes ces précisions.
Dans le journal de Kathleen Comte, le temps de ce samedi.
La météo avec les meubles Gautier. Dormir, manger, se détendre, ranger. Trouvez le meuble Gautier qui répond à vos envies dans nos magasins et sur gautier.fr.
Ce sera un temps parfois menaçant, Jean-Michel Golinski.
C'est sur les régions du tiers sud que le temps sera le plus menaçant aujourd'hui, en particulier entre la moitié est des Pyrénées, l'Auvergne, la Méditerranée, le sud des Alpes, sous un ciel instable, accompagné d'averses, de coups de tonnerre et de neige à basse altitude sur les massifs en début de journée. En fin d'après-midi, le ciel menaçant va s'attarder sur l'ouest de la Corse et des côtes varoises aux Pyrénées orientales. Sur le reste du pays, le ciel souvent dégagé de la matinée aura tendance à devenir plus variable cet après-midi, notamment du nord-est au centre et sur la nouvelle Aquitaine, avec 10 à 12 degrés cet après-midi au voisinage de la Manche, sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, 13 à 15 dans le sud-ouest, en Rhône-Alpes et sur le centre Val-de-Loire, une moyenne de 16 degrés sur les villes méditerranéennes.
Jean-Michel Golinski, Météo France.